L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Les réseaux sociaux deviennent un enjeu de santé publique. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a publié une étude la semaine dernière, le 13 janvier, sur les conséquences des réseaux sociaux sur la santé des jeunes de 12 à 17 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan n'est pas bon. Symptômes anxieux et dépressifs, actes suicidaires, cyberharcèlement, autant de conséquences dramatiques qui s'expliquent en partie par un usage massif des réseaux sociaux chez les jeunes. 42% des jeunes Français de 12 à 17 ans passent entre 2 et 5 heures par jour sur leur téléphone, en majorité sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi les réseaux prennent autant de place dans la vie de ces jeunes et comment cette utilisation mentale a des conséquences concrètes sur leur santé? Pour parler de ce rapport entre les jeunes et les réseaux sociaux, je reçois Léo Pioget, psychologue clinicien. Bonjour.
Bonjour Charlie et merci pour l'invitation.
Léo Pioget, vous officiez en libéral au Mans et vous recevez notamment des ados dans la tranche d'âge étudiée par l'ANSES. Vous avez également travaillé un an et demi dans un centre médico-psychologique pour adolescents. Alors je le disais en introduction, plus de 40% des jeunes de 12 à 17 ans passent entre 2 et 5 heures par jour sur les réseaux. Et en fait, c'est même plus de 5 heures pour 9% d'entre eux. Qu'est-ce qui explique cet usage massif des réseaux chez les jeunes? Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher en fait?
Je pense qu'on peut déjà s'intéresser au contexte un peu dans la manière dont opèrent justement ces réseaux sociaux. Alors, le rapport que vous citiez le nomme, ça, c'est que, en fait, les réseaux sociaux, ils fonctionnent selon des modèles économiques bien particuliers, dont le but est de maximiser, en fait, le temps d'utilisation des réseaux sociaux par les usagers à des fins commerciales. Donc ça vise à capter au maximum l'attention de l'usager.
Donc c'est un mécanisme particulier inhérent aux réseaux sociaux en fait.
Ça fait partie de leur modèle économique, en tout cas de capter au maximum leur attention.
Et donc ils sont confrontés à énormément de contenu. Est-ce que ce contenu parfois il peut être choquant? De quelle nature précisément et comment ce contenu potentiellement choquant arrive jusqu'à eux? Il n'y a pas de modération possible?
Alors, c'est vrai que ça pose une question intéressante, hein, la modération sur ces réseaux, parce qu'on sait que certains réseaux sont plus modérés que d'autres, mais on en a certains sur lesquels on peut retrouver de la pornographie, on peut y être confronté directement. On a aussi des cyberviolences, donc les violences qui sont écrites, qui peuvent être aussi des images. Qui peut faire violence. Bah, la pornographie, par exemple, ça peut faire violence, en fait, pour un adolescent. C'est quelque chose auquel on est confronté, dont on n'a pas consenti, en fait.
Il y a des réseaux sur lesquels c'est plus facile de tomber sur ce genre d'image que d'autres?
Je pense, oui. Pour ne pas le citer, Twitter, par exemple. Je pense
X, anciennement Twitter.
Oui. Je pense, à contrario, à YouTube, qui est beaucoup plus modéré.
En tout cas, un des experts de l'ANSES, Thomas Bayeux, insiste sur le fait que cette exposition au réseau est particulièrement risquée pour les adolescents parce que c'est une période cruciale pour la construction de leur identité. De quelle manière est-ce qu'elle est impactée, en fait, l'identité, l'image de soi à travers les réseaux chez les jeunes?
Je pense qu'on peut s'intéresser à l'écho que portent les réseaux sociaux par rapport aux enjeux qui sont propres à l'adolescence. Alors, je m'étais noté le rapport, donc je le cite, il dit que les réseaux sociaux tels qu'ils sont conçus aujourd'hui exploitent de fait les besoins propres à l'adolescence. Étymologiquement, l'adolescence, ça renvoie à une personne qui est en train de croître. Donc c'est une personne qui est impliquée dans un processus de croissance, qui implique de nombreux changements au niveau du corps, au niveau des fonctions cognitives, au niveau psychique, au niveau du rapport à soi, à l'autre. Et c'est aussi une période d'entre-deux, en fait, entre l'enfance et l'adulte en devenir. C'est dans cette période qui est marquée par ces enjeux que les réseaux sociaux ils peuvent induire une vulnérabilité. Puisqu'ils répondent et ils alimentent à la fois du contenu qui est lié, entre autres, à la représentation de soi, à la représentation du corps.
Et vous en constatez les conséquences auprès des ados que vous suivez, par exemple ?
Oui, ça peut... moi, je reçois des ados qui peuvent être complexés, notamment par des profils ou du contenu, en tout cas, qui est très idéalisé, en fait.
Et ils se comparent eux-mêmes à ce contenu-là, en fait ?
Oui, ils se comparent, parce que... Et puis, ils le disent eux-mêmes, en fait... Ils ont conscience en fait que c'est très idéalisé et en même temps ça laisse une empreinte en eux sur ce qu'ils, ça c'est eux qui le disent, ce qu'ils devraient être à leur âge par rapport à des personnes du même âge ou même ce qu'ils devraient entreprendre dès aujourd'hui, donc pour des, on parle d'adolescents, ce qu'ils devraient entreprendre dès aujourd'hui pour atteindre des idéaux en fait. Alors ça peut être des belles voitures, des maisons, ça fait très cliché, hein, mais c'est une réalité clinique.
Il y a un modèle du bonheur qui est vendu et on ne s'accorde pas à cette vision-là, c'est mal, quoi.
Oui, voilà.
Ouais. Et il y a un autre phénomène qui est pointé du doigt par l'étude de l'ANSES, c'est le cyberharcèlement. Là, pareil, est-ce que les jeunes que vous suivez, certains sont victimes de cyberharcèlement? Et qu'est-ce qui va caractériser le cyberharcèlement pour la victime, en fait?
Oui. Oui. Certains jeunes que je vois en sont victimes ou peuvent en être victimes. Ce que je trouve important, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la question de la modération. Parfois, donc, comme on disait, les réseaux sociaux, ils sont peu, voire pas modérés. Ils exposent au cyberharcèlement et de manière plus générale aux cyberviolences. La première question que je me pose, moi, c'est qui dit quoi ? Dans le cyberharcèlement, c'est régulièrement anonyme. C'est en quelque sorte une violence qui ne dit pas son nom, qui est dénuée de singularité, qui est banale, banalisée, de fait par l'absence de régulation, de modération. En quelque sorte, la violence exprimée à travers le contenu sur les réseaux sociaux, elle est normalisée, peut-être du fait aussi de l'absence de modération. Et un second point d'interrogation, ça peut se trouver comment cette violence elle s'exprime. Je pense qu'il y a une des caractéristiques des réseaux sociaux qui se trouve être la facilité avec laquelle on peut publier et republier, diffuser du contenu, donc parfois violent. À son paroxysme, on en parlait tout à l'heure, c'est le tweet. En quelques secondes et en quelques caractères, on peut exposer du contenu sur la scène sociale sans que ce soit forcément modéré, comme on le disait, avec la possibilité que ça puisse être relayé par d'autres. Donc ça interroge, je pense, sur quand il s'agit des contenus violents qui sont publiés ou republiés, donc parfois de manière anonyme, parfois sous couverture avec le pseudonymat. Je pense que ça complexifie l'identification des auteurs de violence et l'absence de modération interne au réseau social et parfois l'absence de pouvoir au niveau de la justice. Je pense que ça peut participer aussi à la banalisation de la violence et à l'absence de reconnaissance du coup des victimes en tant que victimes et à l'absence de justice en fait qui est nécessaire pour ces mêmes victimes de violence.
Mais c'est beaucoup plus dur à combattre que quand ça se passe dans l'enceinte d'un établissement scolaire, en fait, quoi. En tout cas, les conséquences, elles sont décrites par l'étude de l'ANSES, les conséquences à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Donc l'anxiété, la dépression, ça peut aller jusqu'à des actes suicidaires. Donc il y a un danger concret pour la santé mentale de ces jeunes. Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte à repérer ? Quel comportement repérable peut engendrer la consommation massive des réseaux sociaux et ou le cyberharcèlement ?
Je reviens juste sur ce que vous disiez par rapport au harcèlement qu'on connaît habituellement à l'école. Je pense qu'on peut noter que le cyberharcèlement, il peut agir dans le prolongement, en fait, dans la continuité d'un harcèlement qui prend place au collège, au lycée, au sport, en fait, sur les lieux de vie des jeunes, quoi. Bien entendu, les conséquences du harcèlement à l'école, au sport, au collège, au lycée, ils ne s'arrêtent pas hors les murs de ces lieux. Par contre, une des caractéristiques du cyberharcèlement, ça peut venir atteindre la personne dans des environnements sécurisés, donc hors les murs de l'école. Et,
y compris chez soi, en fait.
Y compris chez soi, donc la maison, oui.
Et du coup, je reviens sur la question que j'avais posée. Quel comportement on peut repérer pour s'alerter, du coup, se dire « Ah, peut-être que là, mon jeune, il vit une situation difficile ».
Je pense que c'est important d'être à l'écoute de nos jeunes. Ça peut être des changements de comportement, le fait que son jeune devienne plus irritable. En fait, c'est tous les petits changements qu'on va observer chez son jeune. Puis être à l'écoute, être attentif, parce que c'est pas toujours facile en fait en tant que victime de l'exprimer, même à ses parents. Être attentif à ce que le jeune peut nous dire et le prendre au sérieux, en fait.
Et alors, pour faire face à ces risques, l'ANSES préconise entre autres l'interdiction des réseaux sociaux avant 13 ans. De leur côté, les députés macronistes ont déposé une proposition de loi. Elle visait à interdire les réseaux aux moins de 15 ans et à imposer une contrainte de vérification d'âge aux plateformes. Mais le Conseil d'État en a supprimé plusieurs articles. La contrainte de vérification d'âge, par exemple, demeure une compétence européenne et non pas seulement française, nationale. Dans l'état actuel du texte de loi, l'interdiction aux moins de 15 ans demeure, mais sans imposer la vérification aux plateformes et sans prévoir de sanctions aux contrevenants. On voit donc mal ce que cette loi pourrait effectivement changer. Est-ce qu'il vous semble pourtant que l'interdiction des réseaux sociaux, sous une certaine limite d'âge, est nécessaire, en comptant sur le fait qu'on puisse faire respecter cette interdiction? Est-ce que c'est la solution, vous pensez?
Je n'ai pas la prétention de voir des solutions, ni de me positionner. En tout cas, il y a pas mal de choses qui m'interrogent par rapport à ça. On sait que les ados, en fait, sont souvent beaucoup plus informés, en fait, sur la manière dont on utilise les outils web. J'imagine qu'il y aura toujours des moyens de contourner, en fait, ces lois.
La difficulté aussi derrière cette volonté d'interdire les réseaux sociaux, ça implique de déterminer très précisément ce qu'est un réseau social. Mais prenons l'exemple de Roblox, par exemple, accusé d'être un repère de pédophiles. Il s'agit d'un vidéo multijoueur. Alors, réseau social ou pas, qu'est-ce qu'il faut inclure dans la définition du réseau social avec toute la vigilance que ça implique?
Ouais. Le réseau social en sciences humaines, ça désigne quand même un agencement de liens entre individus ou organisations. Qui font groupe autour de quelque chose qui a du sens. Dans le langage courant, ça désigne plutôt un site ou une appli qui permettent de constituer un réseau de connaissances, en fait, avec lesquelles on interagit en temps réel. Donc, on connaît des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, mais on peut imaginer que la définition elle permet d'étendre ça à d'autres plateformes, y compris des jeux vidéo, il me semble, davantage actuellement, puisque les jeux vidéo qui, auparavant, étaient réseaux sociaux par leur dimension, enfin leur capacité à jouer en ligne. Maintenant, on peut retrouver aussi des chats sur ces jeux vidéo-là. Et c'est notamment le cas, par exemple, de Roblox. Roblox qui connaît un franc succès. Alors là, du coup, pour le coup, on est un peu moins dans l'adolescence, on est plutôt dans
l'enfance,
un public
ouais.
D'enfants. Et donc, on observe que donc, sur ce jeu vidéo-là, il y a donc des chats sur lesquels on peut discuter avec d'autres utilisateurs. Et bon, là, on a vu dans l'actualité récemment que ça a permis à certains pédocriminels, notamment, de pouvoir discuter avec des enfants. Je pense que ça crée enfin, il faut être vigilant, notamment à ces réseaux sociaux qui ne paraissent pas en être.
Et autre piste de solution de l'ANSES, c'est de renforcer le rôle d'éducation aux médias et au numérique. Alors, les jeunes que vous suivez, quels sont leurs acquis à ce niveau-là, au niveau de l'éducation numérique? Est-ce qu'ils sont vigilants sur certains points, lesquels? Ou alors, est-ce que vraiment, il y a vraiment tout un travail à faire sur cette éducation aux médias?
Je pense que c'est le point un peu le noyau, le point essentiel, en fait. Alors, les ados, comme je disais tout à l'heure, en fait, les ados, souvent, ils s'y connaissent mieux par rapport aux réseaux sociaux que leurs parents. Par contre, ils ont quand même besoin d'accompagnement en termes éducatifs sur la manière dont ils les utilisent. Ils connaissent très bien l'outil, mais est-ce qu'ils connaissent... ils sont suffisamment accompagnés, en tout cas, sur l'utilisation de cet outil-là. Je pense que ça passe notamment par l'école, en fait, une réelle éducation au numérique à l'école. Je veux dire, c'est le réseau social, c'est un... Moi, je m'imagine ça un peu comme un espace public. On apprend aussi à se comporter dans l'espace public, à être en société.
Il peut y avoir un usage positif des réseaux sociaux. Ça peut avoir des effets bénéfiques aussi avec
Oui,
une
oui.
utilisation raisonnable.
Oui, bien sûr. C'est pour ça, je pense que j'ai du mal à me positionner sur le fait que ce soit une bonne chose ou non d'interdire les réseaux sociaux, parce que c'est un outil en fait qui a pris beaucoup de place et qui peut être utile et sur lesquels on peut avoir des bonnes choses. C'est un lieu aussi de partage de contenu, c'est un lieu qui peut susciter la création. Voilà, et puis l'objet même à la base du réseau social, c'est la mise en lien. On peut s'imaginer que c'est plutôt quelque chose de chouette. Après, c'est la manière dont on l'utilise, en fait, plutôt qui pose question.
Je vous remercie Léo Pioget, psychologue clinicien, vous officiez en libéral au Mans, avec notamment de jeunes adolescents confrontés aux réseaux sociaux. Merci pour votre témoignage et vos éclairages sur les questions soulevées par la récente étude de l'ANSES. Merci beaucoup.
Merci Charlie.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.